on va commencer bientôt. Bienvenue sur Radio Galère, Radio Galère 88.4, en quête d'un cinéma indépendant, avec des invités que Fab présentera, David, pour une émission d'une heure et demie. Vous pouvez nous envoyer des mails si vous avez des choses à dire. Sur quoi on va parler, de quoi on va parler, de cinéma, de politique, d'amour, de petits oiseaux. De plein de choses, voilà, ça commence, et pour commencer, on va écouter les gens qui parlent.
Jean-Luc, je crois que vous devez peut-être présenter les gens qui sont autour de cette table, et en commençant par où vous voulez.
Oui, mais avant, je voulais vous présenter... l'ami de la coordination des intermittents, précaires et sympathique en plus, qui s'appelle De Rousseau. Ce n'est pas l'Émile De Rousseau, mais c'est l'Olivier De Rousseau. Donc, si vous voulez, je lui ai cédé une partie de mon temps de parole, ce qui m'évitera de dire des bêtises.
Donc, Olivier De Rousseau, vous pouvez parler maintenant, vous pouvez, ce que vous voulez.
Bonjour. Bon voilà, je vais tenter de vous faire un petit exposé en trois parties qui va tenter de rendre compte d'une situation qui a commencé au mois de juin 2003. Donc, on dira que ça s'appellera la partie A, la partie B et la partie C en dernier. Partie A, ça serait intermittence et précarité. Partie B, précarité et cinéma. Partie C, ce que nous faisons et ce que nous demandons. Donc, petite A. Notre tâche ici serait de vous faire voir, en parlant, une des tâches de la politique aujourd'hui, ce serait de rendre visible ce qui est invisible. C'est pourquoi nous sommes aussi à Cannes, c'est pourquoi nous avons besoin du cinéma. Lorsque nous avons rencontré Jean-Luc Godard, nous avons parlé notamment de 6x2, une série que nous n'avions pas vue et qui n'est jamais montrée, jamais plus. D'autres nous en avaient parlé, d'autres nous avaient parlé de 6x2, c'est-à-dire que d'autres nous l'avaient montré. Nous pouvions donc parler de cette série alors que nous ne l'avions pas vue. Et nous pourrions donc que partir à partir de ce petit axiome. Depuis 11 mois, nous butons, patients et déterminés, contre des murs. Ces murs s'appellent MEDEF, Mouvement des entreprises de France, CFDT, Confédération française du travail, Industrie culturelle, Emploi, État. Depuis juin 2003, nous avons dit intermittents et précaires. Nous n'avons pas dit artistes et techniciens. Pourquoi ? Parce que nos pratiques, et nous avons eu le temps d'y penser, ne peuvent pas se nommer selon ces clivages et ces catégories, d'ailleurs parfois sont antagonistes. Nous sommes une coordination. Nous ne disons pas pour autant que l'art, les techniques, l'histoire et les histoires ne sont pas des éléments, des composantes nécessaires à la fabrication d'une œuvre. Nous sommes des précaires. Alors, c'est quoi un précaire, ou plutôt, ce serait quoi être précaire ? À partir de quelle modalité de travail ou d'assignation et ou d'assignation se construirait cette figure de précaire. Être précaire, c'est faire du télétravail la journée et répéter le soir un spectacle d'importance. Être précaire, c'est avoir 33 ans, être en poste doctorat ou thésard et travailler 50 heures par semaine au noir pour la Ligue contre le cancer. Être précaire, c'est être journaliste pigiste sans allocation chômage, et travailler pour la presse People, ou la presse féminine, ou des hebdomadaires télé. Être précaire, c'est être chômeur et jouer son propre rôle dans un documentaire pas payé. Être précaire, c'est être candidat ouvrier chez Toyota à Valenciennes et passer un casting de motivation. Être précaire, c'est être sans papier embauché au noir chez Bouygues, patron de TF1, ou nettoyer bénévolement les plages polluées par les Ricas. Être précaire, c'est le cadreur du cinéma porno en attente d'un vrai projet. Être précaire, c'est être guichetière à la SNCF, travaillant 7 heures par jour avec une coupure de 3 heures au milieu. On appelle ça annualisation du temps de travail. Être précaire, c'est être étudiant chez McDo. Être précaire, c'est être acteur payé 600 euros par mois pour et dans le Festivaline d'Avignon. Être précaire, c'est être facteur, porteur de nouvelles, sans contrat, à Bellac, en Haute-Vienne. Être précaire, c'est être chômeur saisonnier et faire un stage pour apprendre à rédiger un CV. Être précaire, c'est être cinéaste, sans avance sur recette, malgré l'évidence de ce qui se construit et l'évidence du projet, par exemple. Être précaire, c'est être ouvrier palestinien ou chinois et travailler à construire le mur de la séparation en Israël. Être précaire, c'est être en contrat à durée déterminée au Carlton ou travailler dans le festival au même titre. Être précaire, c'est être hors compétition et victime de la concurrence, la Gestapo de l'esprit. Être précaire, c'est s'appeler Zinelli et construire une œuvre pas à pas à l'ombre de l'Italie dans un hôpital psychiatrique. La précarité est une politique d'assignation, une volonté de séparation à l'œuvre et de contrôler. C'est ce que nous pensons. Ainsi, si le cinéma fut et reste encore un pays supplémentaire, la précarité est un continent. Le temps de travail du précaire, c'est la discontinuité. L'intermittence, c'est la discontinuité. Les intermittents ont des emplois précaires et les précaires ont des emplois intermittents. Alors ce serait quoi ? C'est quoi la discontinuité ? Ce serait quoi la discontinuité du travail ? Ce serait, par exemple, avoir plusieurs patrons. Ce serait être aussi son propre employeur. C'est alterner période de travail et période chômée. C'est aussi une forme de servitude. C'est être à la merci d'un coup de téléphone. C'est être assujetti à des cooptations. C'est être jeté et remplacé au pied levé. C'est être mobile, c'est-à-dire parfois aussi répondre à une demande fût-elle dégueulasse. C'est devoir se loger dans le désir de l'autre afin de mériter son rôle. C'est servir et alimenter l'industrie culturelle. Mais c'est aussi savoir où on se trouve alors que l'on fait des choses difficiles et exigeantes. Choix politique. C'est vouloir se tenir hors du cahier. C'est tenir d'autres promesses. L'intermittence, c'était aussi une assurance de salaire garantie moyennant un temps de travail déclaré, afin de s'assurer un revenu à partir de cette discontinuité du travail. B.
Salut à tous. Bienvenue sur le plateau de Radio Galère pour cette nouvelle émission. On est très content ce soir d'accueillir nos deux invités. Ouais. Olivier de Rousseau, que vous venez d'entendre sur notre antenne, qui intervenait à Cannes, c'était en 2004, hein, où Godard avait laissé une partie de sa conférence de presse ouverte au problème des intermittents du spectacle. En l'occurrence, Olivier était intervenu, comme vous avez pu l'entendre, plus particulièrement sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire le cinéma. Avec nous, y a Bruno Thomé, aussi qui fait partie de cette rencontre dès le départ. On va revenir sur la manière dont vous vous êtes rencontrés. Là, on est en 2004, donc à Cannes. Je crois que vous vous êtes rencontrés un petit peu avant, c'est-à-dire en 2003 à l'USAS. On était en plein dans ses préoccupations autour de l'intermittence et des droits, etc. Comment, à un moment donné, le cinéma rejoint la politique ou la politique le cinéma ? Ce serait intéressant pour nous de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, de revenir sur cette période-là et de savoir entre-temps comment tout ça a évolué. En tous les cas, comment le cinéma pour vous s'est placé dans ce discours politique, ou en tous les cas dans votre réflexion politique. Est-ce qu'Olivier, tu peux peut-être commencer par dire un petit peu comment votre rencontre s'est faite et à quelle occasion, donc du coup à l'USAS.
Oui, juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à la conférence de presse qu'on a tenue en compagnie de Jean-Luc Godard, qui nous avait invité à partager. C'était au moment de la sortie de notre musique. J'avais été nommé comme étant le représentant, à ce moment-là, le porte-parole en quelque sorte de la coordination des intermittents et précaires. Donc la question de la précarité, on l'avait déjà posée à, elle est à l'origine de la naissance de cette coordination-là, ce qui n'est pas sans importance par rapport justement à la question aussi du cinéma. Nous, on s'est rencontrés un an avant, c'est-à-dire en pleine explosion de ce qu'on a appelé cette crise intermittente donc, et précaire à l'USAS, qui était un festival de cinéma documentaire, qui n'est pas un festival, qu'on appelle les états généraux, c'est-à-dire pas de compétition, et c'est important de le dire aussi. Et donc on était venu à l'USAS extrêmement énervé, on était venu tenter de problématiser ce qui nous arrivait, c'est-à-dire à la fois questionner la question de la production, évidemment de la diffusion, et dans le domaine du documentaire, et aussi forcément de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle toujours les droits sociaux, et donc forcément comment se fabriquent les films. Et on était très énervé parce que notre idée quand même, c'était que quelque chose dans ces festivals-là, dans le fonctionnement de l'industrie culturelle, l'USAS en faisant bien évidemment aussi partie, était que quelque chose s'arrête, de façon à ce qu'on puisse recommencer possiblement, d'abord commencer par faire grève, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement social ou il n'y a pas de lutte sans grève, c'est-à-dire donc grève d'un festival, c'est-à-dire que c'est qu'on décide collectivement de ne pas forcément montrer les films, mais éventuellement de montrer d'autres, et puis de se mettre à parler de ce qui nous arrivait, quoi, et de comment on étendait ce problème à des problèmes sociaux et aussi cinématographiques, bien entendu. Donc la question un peu centrale comme ça, et qui est aussi une question qui est toujours aussi vive, on peut dire, et qui est une question qui s'aggrave d'ailleurs du point de vue de la réalité de ce qu'on a appelé la précarité et du chômage, et aussi évidemment des droits sociaux, c'est celle de la production, de la diffusion, et de comment d'une part continuer, comment recommencer à travailler à ce moment-là, et comment venir poser des problèmes là où ces problèmes naissent, c'est-à-dire dans la production industrielle du cinéma, sachant qu'à l'USAS, bien évidemment, dans le champ du documentaire, il y a aussi des gens qui font des films avec peu d'argent et qui viennent les montrer dans ces festivals. Donc la question, elle était compliquée et très très nouée. Mais néanmoins, il fallait que ça s'arrête à ce moment-là, ou tout au moins qu'on vienne faire valoir une parole d'importance.
Et ça ne s'est pas arrêté.
Non.
L'USAS.
Non, ça ne s'est pas arrêté, mais ça a bien bougé. C'est vrai que ça ne s'est pas arrêté parce qu'ils ont quand même décidé de continuer, c'est-à-dire de continuer leur festival parce que, à tort ou à raison, moi, nous, on pensait à tort à ce moment-là, je continue à penser que c'était à tort. Ils pensaient que, de toute façon, à partir du moment où ce qu'ils faisaient, c'était politique, il n'y avait aucune raison que ça s'arrête. Alors, nous, on disait que la question n'était pas de savoir si on voulait faire montrer des festivals politiques, mais c'est-à-dire que la politique devait s'inviter à cet endroit-là de façon déplacée, quoi. Il fallait déplacer la question. On a quand même réussi à faire programmer les films du groupe Medvedkin, ou tout le moins à faire en sorte que les entrées soient gratuites, quoi. Ça, c'était, et aussi à rentrer, on s'est rencontré avec Bruno parce que Bruno s'occupait à ce moment-là, il avait été négocié d'une partie du journal de l'USAS qui paraît quotidiennement. Il nous avait donné une page pour parler, écrire de ce qui se passait, tout ça. Donc voilà, donc c'était conflictuel, mais bon, c'était voilà, c'est comme ça, quoi. Mais il n'y a pas eu que ça. Hein.
Alors on peut dire que cette expérience en tous les cas à l'USAS qui vous concernait pas, que vous bien entendu, vous étiez de nombreuses personnes à agir, à faire des irruptions aussi au sein des studios de télévision, etc. Enfin il y avait, c'était quelque chose qui était vraiment préoccupant. Cette question-là, je veux dire, de l'intermittence, elle n'est pas, c'est pas ce qui va animer la totalité de notre émission, mais parce que cette question, elle reste brûlante et on pourrait en parler pendant encore un moment. C'est d'en revenir donc plus précisément au cinéma, et du coup, après cette rencontre, vous deux, il y a quelque chose qui commence à se mettre en route, c'est-à-dire que le cinéma est un vecteur pour vous pour approcher la politique, en tous les cas votre engagement, essayer de comprendre de quelle manière vous pouvez à la fois faire un cinéma politique et entrer en politique avec le cinéma. Enfin, je ne sais pas si je le dis bien, mais...
Non, mais ça peut se
faire. C'est quelque chose comme ça. Donc, à quoi vous réfléchissez à ce moment-là et comment, qu'est-ce qui se met en place, en fait ?
Après.
Bruno ?
Après, ce qui est assez complexe avec ce mouvement, en fait, c'est un peu dit dans le... C'est un peu dit dans la lecture qu'on a entendue au début à la conférence de presse de Godard, c'est que c'est un mouvement qui a décidé de s'affirmer intermittent et précaire, et non pas artiste et technicien, qui a été quelque chose d'assez majeur, et qui a beaucoup mis en avant le fait, justement, cette espèce de... On ne va pas rester beaucoup là-dessus, mais que ce système d'assurance chômage permettait à des gens de travailler parfois pour l'industrie et par ailleurs de pouvoir travailler avec leurs propres moyens ou pas travailler, mais en ayant une assurance d'avoir un peu d'argent pour vivre et donc de pouvoir mener des projets qui leur importaient en dehors de l'industrie. Et nous, on a toujours défendu le fait que c'était quelque chose qui n'était pas forcément... comment dire ? Que les artistes n'avaient pas forcément plus droit d'avoir accès à ces modes de travail-là et ces modes d'assurance sociale-là. On l'a beaucoup défendu comme ça, comme des droits qui devraient aujourd'hui, alors que la précarité devient massive, concerner beaucoup plus que la population des simples intermittents du spectacle.
Et donc, il y avait aussi une remise en question du statut, une réintégration sur le statut en lui-même. Donc.
Oui, mais faut savoir que quelques syndicats, par exemple, étaient prêts à sortir les intermittents du spectacle de l'assurance chômage en général pour créer un statut des artistes spécifique au nom de la spécificité de la pratique artistique, culturelle, etc. Et que nous, on s'est beaucoup opposé à ça. Et pendant assez longtemps, on s'est vraiment défendu comme des travailleurs du 21e siècle, alors que le capitalisme et la manière de mettre les gens au travail augmentent beaucoup. Enfin, voilà, le travail des cerveaux, quoi, qui commence à remplacer, pour fabriquer de la plus-value, le travail, en tout cas en Occident, le travail des mains, etc. Et donc, on a beaucoup mis de côté pendant assez longtemps une réflexion sur la culture, parce qu'il s'agissait justement de mettre le sujet sur les droits sociaux. Donc, à l'intérieur de la coordination des intermittents et précaires, enfin là dont faisait partie Olivier et moi, donc qui était à Paris plutôt, mais il y a eu d'autres coordinations et d'autres assos dans toutes les régions, et ça a été nationalement que le mouvement a choisi de se mettre comme un mouvement de salariés et pas uniquement comme un mouvement d'artistes qui défend la spécificité de l'art. Et donc, pendant assez longtemps, à la fois, on était beaucoup dont les pratiques et le cinéma nous importaient, et en même temps, on ne voulait pas mettre le mettre au centre des discussions parce qu'il y avait un enjeu à maintenir cette chose-là. Et que tout nous ramenait, y compris les journalistes, etc., enfin, à défendre les artistes. Et que c'était aussi, y compris à l'USAS, par exemple, dans les débats, des choses comme ça, on mettait beaucoup en avant la spécificité des artistes. Enfin, par exemple, cette année-là, si je me rappelle bien, il y avait beaucoup de haine contre la télé en disant que c'est la télé qui prend l'argent des vrais créateurs, etc. Et nous, on n'était pas du tout dans ce débat-là. Enfin, nous, on était vraiment sur l'argent de l'ensemble des salariés et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et donc, c'est venu assez... Et ça n'a pas été très facile d'amener les discussions sur à la fois comment on travaille dans les pratiques artistiques et à la fois des objets et la spécificité de ces objets.
Et ça a été aussi un choix tactique, mais qui est revenu après sous forme de boomerang, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il était absolument impossible de s'entendre massivement, et aussi selon des chapelles qui sont à chaque fois différentes sur les modes de fabrication, sur... nous, on s'est retrouvés à avoir à lutter avec des gens qui bossaient à la télé, quoi. Sauf qu'on avait un lieu commun qui était cette lutte, donc tu vas pas commencer à... La question, c'était pas de savoir, au départ, évidemment... pas question d'avoir simplement des débats sur les formes, même si les débats
qui
sur
du
les
cinéma
formes,
qui n'en voilà, fait pas, voilà.
c'est revenu à un moment donné où finalement c'est aussi des questions cruciales, c'est-à-dire on était tous plus ou moins dans cette lutte et à faire des films aussi, on avait tous envie d'en regarder, on a ouvert à la coordination un espace où on s'est mis à montrer des films. Suite à Cannes, on a inventé comme ça, bon en balance, groupe qui s'appelle le groupe Boris Barnet, qui a commencé à montrer des films avant d'en faire, parce qu'on considérait que montrer des films, c'était comme en faire.
Boris Barnet, c'est qui ?
C'est un cinéaste soviétique. Mm-hmm. C'était un peu un choix tactique aussi et comique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'appeler le groupe Tsigavertov. On ne pouvait pas s'appeler le groupe Medvedkin parce qu'ils avaient des affaires avec des relations avec le communisme qui étaient quand même extrêmement troubles et embêtantes et qu'on n'avait pas envie forcément de porter comme des drapeaux. L'époque avait changé et Barnet nous est apparu assez intéressant parce que son cinéma était beaucoup plus méconnu et que je pense que c'était à l'époque, on s'était dit que c'était un peu une espèce de Jean Grémillon de l'ère soviétique. Comme ça. Et donc ça nous intéressait. Puis à Cannes, on était au bord de la mer bleue, et ce qui est le titre d'un film de Barnet qu'on a tous, au demeurant, que certains n'ont même pas vu. Moi, je l'ai vu plus tard.
j'ai vu, mais je, ce qui est pas très grave, mais j'en avais tellement entendu parler que je le trouvais formidable. D'où l'intérêt de se parler des films aussi, c'est comme les voir, quoi. Ça c'est important. Et donc voilà, c'est après ils sont des, c'était voilà, cette boutade-là est devenue le titre d'un groupe. Donc on a commencé par regarder des films et on a été assez exigeant.
Alors quand vous organisiez comment ça se passait en fait?
On faisait film, discussion après film et ouais. repas okay. collectif. Et c'était assez, au début c'était assez régulier, puis bon, on se parlait, tout ça a été noté en assemblée générale, et il existe d'ailleurs des traces, des cahiers de donc certains, et bon, et ce qui est, ça a été assez déterminant parce que beaucoup de gens parmi nous n'avaient pas vu les films qu'on montrait, parce que bon, le problème, on sait tous aujourd'hui qu'un des problèmes majeurs, on en discutait tout à l'heure, c'est comment montrer les films, comment les diffuser, puisqu'il s'agit, le malheur est qu'il ne suffit pas que de les produire, il faut aussi s'occuper de les montrer et donc de les regarder, de savoir donc quelle réception, quelle diffusion, que évidemment la diffusion c'est un problème évidemment politique parce qu'en général c'est le capital qui s'en occupe et qui en général passe, c'est qui se remplit les poches grâce à ça, et donc en même temps on vous laisse réapproprier ce geste quoi, et il y a eu des choses très heureuses quoi, et puis en plus on travaillait selon une logique que le principe c'était de montrer plusieurs films en même temps et de les instituer selon une logique de montage, c'est-à-dire qu'on faisait déjà du cinéma, c'est-à-dire qu'on montait et on essayait de chercher des films qui se regardaient. Moi j'avais été très inspiré par exemple il y a quelques temps auparavant par des programmations d'ailleurs à l'USAS que fabriquait Anne-Marie Faux, qui est devenue une amie par la suite, une camarade aussi, qui elle avait le don de, absolument de travail très intéressant, qui était celui de montrer un documentaire, une commande du Fatah à Van der Kuyken qui s'appelle Les Palestiniens, qu'on ne voyait plus nulle part, et de le mettre avec un film de Straub ou 5 minutes d'une émission télé, mettons, et que tous ces films-là, mis ensemble et regardés ensemble, finissaient par grandir, quoi. Et on finissait par penser et pas par être épuisé par une programmation. Et ça, c'est un truc, c'est pas courant, quoi.
C'est pas facile.
Et c'est pas facile, c'est-à-dire que c'est aussi, c'est quasiment un travail manuel, quoi. Et quand ça marche, d'un seul coup, c'est comme la philosophie. On se met à dire, ah oui, tiens, je me souviens d'un plan que j'ai vu dans le film d'avant, et bah, ça pourrait être dans ce même film. Enfin, ça a fait agir, quoi. Et c'est là où on se rend compte concrètement, en tout cas, moi, on le savait tous un petit peu, mais on l'a expérimenté collectivement avec des gens qui n'étaient pas habitués, et que cette logique de montage et de montrer, c'est un geste très important, des films qui peuvent très bien être, je répète, un film vidéo avec un grand film de cinéma populaire, comme un film de Ford, par exemple. Eh ben, ça produit des choses qui sont l'inverse de l'épuisement de bien des festivals, quoi, où finalement, on n'est plus au rayon tomate ou au rayon poireau d'un supermarché, mais on est d'un seul coup avec des œuvres de l'esprit qui correspondent, quoi.
Donc c'était, ce que vous disiez, c'était une forme de, d'actualiser en fait des films plus ou moins militants en tous les cas.
Il n'y avait pas, voilà, le truc intéressant, c'est que on a aussi questionné la forme militante, c'est-à-dire que parfois on mettait un film dit militant et puis on le montrait qu'une fiction, quoi, une fiction industrielle, mettons, et on regardait si ces formes-là se regardent pas finalement. Et il s'avère que souvent ça se regarde aussi, quoi. Et que donc, c'est-à-dire qu'on a tenté de faire péter aussi, tout en étant exigeant, de faire péter des catégories et de retrouver la politique dans les films. C'est-à-dire, en quoi, par exemple, je sais pas, regarder d'un film de Yann Lemasson sur des luttes au Japon, ça peut nous apporter un certain nombre de questions, de résolutions, voire parfois sur ce qu'on vit nous, quoi. Ça a été une façon de se regarder, quoi, avec le passé. C'est-à-dire, la mémoire, elle remonte, quoi. C'est très simple. Quand tu vois des marches, des défilés, des assemblées générales, c'est rare dans le cinéma. Donc c'est ça le cinéma militant, c'est comment est-ce qu'on le réinterroge. Donc on a fait acte de militance avec des films qui étaient pas forcément, dont le destin n'était pas forcément d'être des films militants. C'est ça qui nous a, fait travailler, en fait, mais au sens, bon sens du terme, hein, c'est-à-dire penser, quoi.
Mais c'était des films qui dataient d'une autre époque ou c'était des films contemporains?
Il y avait au départ, moi j'étais, il y a eu un peu de tout. Mais on a pas mal hésité avec les films contemporains, les films qui étaient fabriqués
au moment même.
Ouais. On travaillait plutôt un peu avec le passé proche ou le passé lointain, quoi. Enfin voilà, il y a eu un truc, honnêtement, ça a eu un truc comme ça. Et d'ailleurs, les films plus actuels au sens de l'actualité sont revenus petit à petit. D'ailleurs, on voulait pas montrer nos films, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait pas, c'est toujours un peu gênant, quoi, de montrer ses films dans des espaces politiques comme ça, ou alors c'est quelqu'un qui dit tiens je vais montrer tel film, mais c'est le tien, mais c'était pas,
c'était pas fait pour se faire d'autopromotion.
Moi, vous faisiez des films déjà, vous commenciez à faire...
Oui, moi j'en avais fait un peu déjà.
D'accord.
Oui, oui.
Je rebondis sur ce que tu dis là, oui. Tu disais on montrait des films militants déjà, qu'est-ce qu'on entend par film militant, puis c'était aussi ça l'enjeu, c'était de sortir de cette catégorie-là. Quoi. Ouais. Vous montriez des films militants plus de avant.
Tout
et
à fait.
Parce que voilà, hier on était une projection de Ciné Dada et on a effleuré toutes ces questions-là. Quoi. Oui. Est-ce que c'était aussi parce que la question du film militant de maintenant, c'est quelque chose qui est devenu... Je veux dire qu'il y avait le choix de montrer et l'histoire et tout ça, mais moi ça me renvoie à l'écho personnellement de me dire, moi maintenant avec le cinéma militant, je sais plus comment le prendre.
Oui,
je me pose la
oui.
question si alors maintenant faire du cinéma militant, bah, c'est quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus complexe.
C'est-à-dire que militant, c'est pas un... En fait, finalement, on parlait de ça un peu tout à l'heure, je pense qu'en fait, il faut... C'est pas un adjectif, quoi. C'est comme la politique, c'est comme surréalisme. C'est pas un film surréaliste, c'est pas un film militant, c'est pas un film politique. C'est pas des adjectifs. C'est des gestes qui correspondent à des problèmes précis dans lesquels il y a des problèmes d'argent aussi, ou des problèmes de fraternité, ou des problèmes de dissension, de lutte. Et que c'est à cette aune-là qu'il est important de les regarder, quoi. Je veux dire... On s'est quand même aperçu, et ça nous a beaucoup fait rire, en même temps ça nous a un peu emmerdé, c'est que parfois des cinéastes de droite faisaient des cinémas qui étaient extrêmement importants d'un point de vue politique, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que d'un seul coup un point du voir s'active depuis des... Voilà. Ouais, le film de Bresson, c'est pas un mec réputé d'être extrême gauche, sauf que quand il fait Le Diable probablement, ou Le Journal d'un curé de campagne, je pense qu'on a une idée de ce que c'est qu'un peuple, quoi. C'est con, mais c'est pas un copain, mais c'est comme ça. Et donc la question, elle est complexe, d'ores et déjà. Donc c'est-à-dire qu'on a... donc forcément, la difficulté, c'est que les lignes de frontières se déplacent, les clivages réapparaissent autrement, et que donc c'est aussi une école, quoi, enfin, au sens intéressant.
Donc vous étiez au travail, quelque part, au travail. Bien sûr que j'imagine que c'était par plaisir, mais est-ce que c'était donc entre vous, est-ce qu'il y avait une ouverture au public, ou est-ce que c'était vraiment un petit groupe qui était en...
C'était ouvert. Bien sûr.
Ouais, c'était une des commissions de la CIP. Enfin, pour le coup, comme on était dans un espace qui avait un peu des règles, enfin, c'est-à-dire qui était organisé avec des commissions et une AG où les commissions racontent leur travail,
oui.
Il n'y avait pas de groupe fermé, donc on était une commission... comme les autres qui fonctionnaient de mode ouvert. Après, elle était les mêmes. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient tout le temps là et qui portaient des choses, ça c'est vrai. Mais de fait, on était une commission ouverte. Et par rapport au cinéma militant, enfin, je me rappelle d'un truc, une des premières choses qu'on a faites avant de se créer, justement, Boris Barnett, c'était une fois où justement un film avait été fait sur le mouvement. Un film militant qui essayait de documenter une coordination nationale en juillet, si je me rappelle bien.
Oui.
Très
la marmite.
Cinéma, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ouais, la marmite de Caen, mais très cinéma direct, à filmer les conversations de couloir, très très anecdotique, avec assez peu de mise en scène, etc. Et je me rappelle, c'était Olivier avait juste montré un film des Medvedkin.
Oui, j'avais montré Lettre à mon ami Paul Seb. Ouais.
Ce qui avait eu pour effet d'atomiser absolument ce film-là. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait des artistes professionnels qui essayaient de faire un document sur leur lutte et qui étaient creux, d'un grand vide. Et de l'autre côté, il y avait des ouvriers qui faisaient un film qui avait une force, y compris esthétique, artistique, qui ne parlait pas de thème spécial d'emblée politique, qui parlait de la mort d'un ami... Et oui, ça avait effectivement un peu atomisé ce mauvais film. Et de la même manière, Boris Barnett, on a créé le groupe à un moment où beaucoup de documentaristes voulaient faire des films sur la CIP et où effectivement, on avait beaucoup de méfiance sur ce qui pouvait être fait dans la vitesse, dans l'axiome. C'est bien que des films soient faits, c'est bien qu'on parle comme s'il n'y avait pas de forme. Et d'où le premier geste qui a été, oui, c'est important de faire des choses, c'est important de documenter les choses, mais peut-être... On va commencer à voir ce qui a été fait pour réussir à nous-mêmes nous voir, quoi.
Oui.
Alors vous prenez le temps de le faire, donc ça dure, enfin ça se prolonge comment le groupe Boris Barnett? Est-ce que combien de temps ça dure? Combien de temps vous passez du temps ensemble dans ce collectif? Ça se prolonge sur plusieurs années?
Oui, et en même temps ce qui est aussi intéressant, on pourrait dire, c'est que des gens parmi nous sont dans d'autres commissions et font aussi d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que c'est relié, voilà. Et donc ça, je peux pas, c'est marrant, c'est que par rapport à ça, il y a des trous de mémoire qui sont... parce qu'en fait, on va en parler, si possible, c'est qu'on est avec ce groupe, on est en train de terminer un film, parce qu'un jour, on a décidé d'en faire. On a fait des ciné-tracts aussi. Et puis là, maintenant, on fait ce qu'on pourrait dire une fiction, quoi. On va terminer une fiction.
Autour du fric.
Qui a pour titre
d'une nouvelle de
Salaud d'argent,
qui a pour titre provisoire Salaud d'argent. Moi, je dis provisoire, mais c'est pas sûr que ça soit provisoire. À partir d'un extrait d'un texte, ouais, de Faulkner qui s'appelle Les palmiers sauvages. Donc Faulkner, années 30. À peu près, on peut situer là. Hein.
Et donc, on voit déjà, on peut trouver des trucs sur Internet déjà.
Ah oui, il y a quelques images. On a confié quelques plans à Dérive.
À Dérive.
Et David, en l'occurrence. Oui, donc, il y a...
Oui, c'est les années 30 et c'est la période...
C'est la période de la crise de 29. Donc, crise politique, crise de l'amour, nécessité de migrer. Solution. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est là, mais en puissance et en écrit. Et à partir de là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc on va entamer le montage bientôt.
Et comment on fait un film politiquement collectif?
Grave question.
On se prend la tête pas mal, je pense.
Oui, c'est ça. Oui. Ça se fait au tout venant. Et je sais que la décision centrale qu'on a prise une fois que ce texte a été amené et proposé par une de nos camarades, par Nathalie Nombeau, qui avait ce texte dans sa poche, je pense, depuis plusieurs années. Hein. Et il était question qu'on continue à faire des choses ensemble, mais bon. Et on a décidé de le travailler. Et on savait qu'il n'y aurait pas un cinéaste. Parce que ce n'était pas le problème, ce n'était pas le jeu, ce n'était pas la réalité dont on avait besoin. Donc on a été 10 personnes, 11 personnes, je ne sais pas, je pourrais pas dire exactement le chiffre, à réfléchir collectivement autour de ça. Et c'est vrai que... c'est délicat, difficile, compliqué, épuisant parfois. Et donc forcément, on a besoin de la durée pour que les choses se disent, puis se déposent, puis reviennent. Et puis aussi d'un petit peu d'argent, parce qu'on a décidé de tourner en 16 mm et en noir et blanc. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu la tâche facile. Effectivement, mais en même temps, c'est un truc d'apprentissage qui est concret. Là-dessus, il n'y a pas à chier. Et puis voilà, le son direct...
C'est la première expérience que vous faites en collectif, en fait, un film à plusieurs.
Depuis la coordination. Et après, après c'est compliqué parce qu'on peut toujours. Moi j'ai signé des films là-dessus où je me suis institué réalisateur, comme on dit, mais en même temps la question elle est toujours très difficile parce que faut la déplier, quoi. C'est-à-dire qu'un film c'est toujours une affaire collective, quoi. Mm. Là-dessus.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire justement de cette période où vous avez visionné des films, vous êtes questionné sur le geste politique par le cinéma. Est-ce qu'il y a des choses majeures, l'un ou l'autre, que vous avez, dont vous êtes nourri aujourd'hui et qui peuvent se dire ou pas? Enfin, est-ce qu'il faut voir vos films, j'imagine? Et d'ailleurs, Olivier, tu es venu à Marseille, justement, deux mots là-dessus. Tu es venu à Marseille dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel. Et donc, on va pouvoir, découvrir quelques-uns de tes films. En l'occurrence, demain soir, au Polygone étoilé, par exemple. Et puis aussi, à la Cité Maison de Théâtre, je crois que c'est...
Samedi, oui.
Donc, est-ce que, quand même, il y a quelque chose à dire là-dessus? Ou tu dirais, venez voir mes films?
Non, bah évidemment, ce serait gentil de venir, parce que justement, c'est des films dont certains me posent encore problème.
Ce serait un bon endroit pour discuter, en plus. Mais...
Oui, en plus, oui. Non, mais c'est... après... Non, là-dessus, je ne sais pas trop quoi dire.
Comment vous continuez donc, le groupe Barnes continue?
Pour l'instant, il existe toujours parce qu'on est en phase de montage.
En phase de montage, mais comment vous continuez ce dont on parle, ce dont... Godard t'a laissé la place de parler, c'est-à-dire le cinéma et la politique.
Ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit une question qui soit tellement incorporée que finalement, à chaque fois, elle soit là, quoi, présente.
Elle se nomme pas.
C'est-à-dire qu'après, ça modifie ton rapport à l'argent, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis on fait un film, après, c'est tout con, c'est des décisions très bêtes. Hein. Si tu fais un film et qu'en l'occurrence, on décide qu'on arrive à obtenir un peu d'argent, on le partage, égalité.
Justement, cette expérience collective de film, là, est-ce qu'elle elle se fabrique comment, à quelle économie? Est-ce que ces questions-là sont abordées, j'imagine, dans sa construction aussi, dans sa...
Ah bah oui, forcément, puisque de toute façon, là, on est en 16 et en noir et blanc. Au départ, on ne s'est pas payé. Puis après, avec la coordination, ce film, il se construit à partir... Il y a une enquête qui est faite, qui est quasiment en voie de terminer, d'être publiée même, qui était une enquête sur les conditions de vie, de travail, de revenus de salariés précaires et à l'emploi discontinu. Et nous, on est venu se greffer, et qui a été financé par l'Île-de-France, par l'Île-de-France, oui, Conseil général. Donc, nous, on a obtenu un petit peu d'argent pour pouvoir faire ce film. C'est-à-dire, c'était vraiment le minimum. Mais le minimum qui représente quand même, je sais pas, des 11 000 euros au départ, puis un peu plus. On a fini par toucher chacun un chèque de 1 000 boules dernièrement. Donc voilà, mais bon, on a tenté de demander de l'argent à Brouillon d'un rêve, je crois, ou à la... Ouais, bon, enfin, en gros, on s'est fait un
peu... Et dans ce film, je pense que beaucoup s'est posé... Comment s'est posé la question, parce qu'on est parti de l'intermittence, du militantisme, de tout ça, la question justement de ces débats qu'on peut vite rendre stériles, mais qui sont, oui, je trouve, fondamentales, et qu'on a eu un peu hier à Dada, quoi, où on te dit, mais toi tu penses la forme, ou toi tu penses le fond, ou vous en tant que cinéaste, dans un film collectif qui découle d'une histoire d'engagement politique, comment ça s'est...
Je vais pas répondre tout à fait à ta première question, je vais juste dire un truc par rapport à Dada hier. Je pense que peut-être que, une fois de plus, la logique de montage peut aider. C'est-à-dire que si quelqu'un amène un film qui vient d'être fait sur la question cruciale de l'installation de caméras de surveillance de façon massive, à la fois à Marseille et dans d'autres villes, il faut peut-être réfléchir au préalable et dire, tiens, il y a peut-être un autre film qu'on pourrait montrer aussi, qui appartient au patrimoine. Ouais, ouais. Hein, tu vois, on peut parler de patrimoine après tout là-dessus. Et de dire, on va les mettre ensemble et on va tenter de faire en sorte que ces films se regardent. D'accord. Et je pense que ça peut ouvrir. Et ça peut déplacer la question de ces films militants ou pas, mais sur dire, bon voilà, on a vu deux choses, quelque chose s'est passé, est-ce que vous pensez que par rapport à ce qui était à montrer ou à dire, quelque chose a été possible ou pas? Ça, je pense que c'est... parce qu'on ouvre à partir de ce qui est vu, et pas à partir de présupposés qui sont parfois bons et qui aussi parfois nous emmerdent la vie. Quoi.
Ouais, ils sont dangereux, quoi.
Le cinéma sert à ça, en fait. Il a une capacité énorme à faire en sorte qu'on peut se regarder, quoi. Un peu, non?
Ça vous dit, là, on écoute un petit truc d'un joli petit couple? Hein?
Oui, c'est quoi un petit joli petit couple?
Bah écoute, on va les écouter, puis on va voir.
Ah, tu... Ah oui, ok.
Pardon, excusez-moi.
C'est difficile aujourd'hui de faire des films qui a 20 ans, dans la mesure où il y a justement quand même une sorte de poids économique qui est plus violent, peut-être, enfin, je sais pas, j'ai un sentiment.
Il n'y a aucun doute là-dessus, la réponse est vraiment pas mystérieuse. Des gens qui auraient maintenant l'âge qu'on avait quand on est arrivé avec notre premier projet de film, c'est évident qu'ils s'ils veulent le réaliser comme ils l'entendent, je ne sais pas comment on va leur conseiller de le faire. Ils ont beaucoup plus de mal encore que nous à l'époque.
C'est difficile pour ça et c'est difficile aussi pour des raisons individuelles.
À peine plus de 30 ans, enfin 35 ans, voilà. Depuis notre premier... Non, 54, disons, c'était notre premier projet de film. Bon, il n'était pas prêt tout de suite, mais enfin, disons 55 pour simplifier.
Ça fait 40 ans, quoi.
Ça fait 40 ans, voilà. Depuis 40 ans, il n'y a aucune raison que dans le domaine du cinéma, les choses soient améliorées. Au contraire, c'est pas parce qu'il y a Canal Plus et tout ça. D'ailleurs, très curieusement, Canal Plus n'a jamais passé un film de nous. Canal Plus a toujours refusé de
participer en quoi que ce soit pour la plus petite
somme. En quelque manière, à une production, à la production d'un film de nous.
Non, mais je crois que le poids économique, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les jeunes gens ont de plus en plus de mal à ne pas se laisser émietter.
À désobéir bêtement.
Oui, mais pas seulement, c'est pas seulement une question de désobéissance, c'est une question pour faire quelque chose à quoi on tient, il faut pouvoir concentrer son énergie. Et ça, c'est quelque chose que tout va à l'encontre de ça. Tout essaye, et nous on le voit aussi, parce que c'est pas seulement parce qu'on vieillit, on a de plus en plus de mal à se...
Il s'adapte comme il respire.
Comme on dit, sous amenemen en français, à se... disons, à se resserrer autour de son noyau.
À se ressaisir.
Dans
la langue classique française, ça serait se ressaisir.
Et cet émiettement-là, ça, ça a pour conséquence qu'il n'arrive plus, il faut pouvoir appuyer sur un point très fort pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où tout le monde qui vous entoure jusque-là, le monde social...
la dispersion.
Oui, ça ne marche plus. Alors, la situation économique a empiré, et de l'intérieur, ils se font miner.
Ils se font miner, et leur énergie se fait miner. Pas seulement leur énergie pour organiser un film, qui coûte beaucoup plus cher que le travail humain. Déjà, Brecht le disait à l'époque de Kulov un peu, il disait, l'organisation nous aura coûté beaucoup plus de peine que le travail... en tant qu'artistique lui-même, parce que c'était un film politique. Bon, mais même si on ne fait pas un film dit politique ou directement politique, l'énergie qu'il faut aujourd'hui, elle est encore plus grande que celle dont on a eu besoin, nous. Et les gens sont dans un état tel qu'ils en ont moins. Et l'énergie qu'il y a dans les films, elle est de plus en plus mince, érodée, carrément érodée, laminée. Enfin, par rapport à un film de Stroheim ou de Fritz Lang ou de Mizoguchi ou de Lubitsch ou de Murnau, pour prendre des gens vraiment un éventail, ou de Renoir, mais il y a l'énergie qu'on trouve dans les films contemporains, même les meilleurs. Si j'étais vache, je dirais même ceux que j'estime le plus de Romain, je sais pas, faut censurer ça. Et ben, ça, je dis pas que ça tend vers zéro, mais si on s'amusait aux statistiques, ben, l'énergie qu'il y a là-dedans, c'est en tout cas moins de 50%. De ce qu'il y avait dans les films des gens on vient de citer les noms. Hein. Et quand je dis moins de 50%, je suis vraiment généreux. Vraiment généreux. Et là, je ne parle pas de l'énergie nécessaire. Et encore, Romer n'est plus un jeune. Je veux dire, il n'est plus un jeune. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des gens qui baignent dans le bouillon de culture actuelle? C'est 10% dans la plupart des cas d'énergie qu'on retrouve. 10% dans leur film. Je dis bien même les meilleurs.
Ça me fait penser à une chose que disait Danet une fois. Il disait que les films d'aujourd'hui avaient beaucoup moins de violence formelle que justement ceux de Lang ou de Mizoguchi, par exemple.
C'est ça qu'il avait senti. C'est ça qu'il avait senti. Moi je parle d'énergie comme ça parce que c'est un mot, hélas, c'est de nouveau un mot grec, ça veut dire le travail. Bon. Mais je voulais dire énergie, comme quand je dis, grâce à Schoenberg, on peut dire que Moïse et Aaron est le film le plus chargé de haute tension qui soit, pour ne pas dire des histoires du genre, de l'histoire du cinéma ou des conneries de ce genre, enfin, qui sont de toute façon des clichés.
On se pose un peu, on reprend après. petite pause.
Vous m'entendez ?
On t'entend.
Vous m'entendez ?
On t'entend, David, on t'entend.
Le chant du mandrin ou pas ? Pas encore. T'as aimé ? Ça a plu ?
Ouais.
Ah, c'est bien.
Ah, ça crie là, galère. C'est en pleine. C'est une AG, c'est normal.
C'est
à vous, à vous. À
bon.
Vous.
Bah, on va rentrer les deux pieds, les deux mains, la tête et tout le reste dans le cinéma d'Olivier. Je pense que voilà, il y a certainement une, on va dire, un événement ou en tous les cas quelque chose qui s'est passé de particulier dans la
oui.
dans le tournage de ton premier film, Dreyer.
C'est pas le premier,
c'est
mais
pas
c'est
le premier.
Pas, c'est
dans,
pas
dans, voilà, dans ton film Dreyer pour mémoire.
Oui. Enfin, c'est un film d'importance.
Qui a été fait en quelle année du coup ?
Il a été fait, bah oui, d'ailleurs, il a été fait en deux fois. Enfin, on l'a préparé pendant un an. À l'époque, je travaillais. Ça va permettre de faire l'articulation. À l'époque, je travaillais juste avant l'arrivée massive du mouvement des intermittents et précaires. Je travaillais à faire des ateliers dans un centre d'adaptation pour le travail à Roubaix, qui est un centre qui accueillait des jeunes travailleurs handicapés, qui sont un lieu assez intéressant, très très intéressant à ce moment-là, parce que les jeunes gens accueillis ne pratiquent que le théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas l'armée de réserve du capital qui passe son temps à travailler pour l'équivalent d'une location adulte handicapé, à faire de l'imprimerie, de l'emballage, du conditionnement, etc. Donc on faisait du théâtre, on préparait un film qui devait s'appeler Dreyer pour mémoire. D'ailleurs, je pense que le titre on l'avait un peu choisi ensemble. Donc on avait fait un an d'atelier à mi-temps comme ça pour essayer de questionner l'image, les textes, comment on allait faire sur un plateau de théâtre. Et puis on a décidé, donc j'ai trouvé un petit peu d'argent, pas grand chose, et puis on a décidé de faire le tournage sur le plateau, leur plateau de théâtre en juillet 2003, donc, et juste avant le mouvement a explosé, on va dire, enfin, quelque chose s'est passé, que... et donc on a fait grève. C'est-à-dire que c'est, bon, c'est un peu pénible, mais en même temps ça a été très joyeux. C'est-à-dire que je suis arrivé, on était arrivé avec tout le peu d'équipe technique qu'on avait, le matériel, et j'ai dit aux camarades qui étaient des acteurs, donc qui étaient les acteurs du film, j'ai dit voilà, on va pas tourner parce que Avignon, il y a des problèmes, peut-être ça va s'arrêter. Si jamais le festival s'arrête, moi je pars là-bas, et donc puisqu'on est des travailleurs du spectacle, pour vous sous les allocations adultes handicapés, pour moi dans l'intermittence. Je pense que ça serait bien d'arrêter. Et donc, plutôt que faire le film, on a fait une AG qui a duré pendant une semaine, où on a fabriqué ensemble une banderole, on a participé à une manif, etc. Et en même temps, les caméras étaient là, donc on a aussi tourné quelques images quoi, de cette assemblée-là. Et le film, on l'a tourné en septembre de l'année suivante. Ça a eu pour résultat quand même qu'au montage... ayant quand même emmagasiné avec les camarades des images de cette grève, parce que voilà, une grève c'est intéressant à tourner aussi, même si c'est pas tout à fait. Enfin, voilà, on était en grève, mais on bossait un peu quand même. Enfin bon, voilà, 8 heures par jour, on s'arrêtait, on faisait pas le tournage, quoi. On parlait.
C'est là où j'ai appris d'ailleurs que les travailleurs handicapés n'ont pas le droit de grève, ce qui est extrêmement saisissant. Et donc, la question qui s'est posée au montage de ce film, c'était de savoir s'il fallait incorporer dans le film des images quasiment de cinéma direct, on va dire, c'est-à-dire de caméra à l'épaule, à l'intérieur d'un film qui était très structuré sur le mode de la parole, quoi. Et donc, on a décidé avec Sébastien, qui était le monteur, Sébastien Descoings, à ce moment-là, de montrer, à un moment donné dans le film, un moment de cette grève. Alors, je ne sais pas si le résultat est très probant ou quoi, mais je pense qu'il était hors de question de ne pas la faire figurer. C'est-à-dire qu'on va dire que l'acte cinématographique et politique à ce moment-là a été de dire « il est quand même arrivé ça, on ne va pas faire comme si c'était rien passé ». Donc on va le montrer. Donc dans le film, il y a un moment donné où on voit un moment comme ça où on ne travaille pas, on fait des banderoles. Donc c'est incorporé au film. Donc ça donne une espèce de chose un peu hybride, enfin hybride, un drôle de truc qui aujourd'hui encore reste très questionnant, parce que quand on va montrer le film, on va le voir, quoi. Et entre des positions d'acteurs qui sont extrêmement hiératiques, où il y a une espèce d'application réelle à dire un certain nombre de textes qu'on a bien travaillé et compagnie, et ce moment qui est un peu explosif comme ça, où on voit des gens qui fabriquent une banderole, des caméras un peu partout, il y a une collusion de formes, quoi. Donc ça raconte un peu ça. Raconte un peu, au moins, voilà. Donc, à ce moment-là, la question politique est venue croiser un problème formel lié à qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on montre. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais je sais que c'était nécessaire.
Bon, on pourra en tous les cas découvrir.
Samedi, ouais.
Samedi.
Et est-ce que tu pourrais nous lire ce qu'il y a sur l'écran, Olivier ?
Si tu veux, ouais. Le cinéma était ce qui me permettait d'appartenir à ma classe, moins une classe qu'un statut, les pauvres. C'était aussi simple que ça, il y avait les pauvres et les riches, nous étions les pauvres, c'est-à-dire les petits. Ma grand-mère avait un art formidable d'en rire. Ce n'est pas du tout un souvenir plaintif, c'est un sentiment gai et assez ironique d'être les petits et d'en toucher certains bénéfices de fierté, se débrouiller, ne rien devoir à personne. Le cinéma permettait de se retrouver et de manger à tous les râteliers, de contourner la société en lui volant l'une de ses productions populaires sans la partager avec elle, en la gardant pour nous. Donc c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Persévérance et c'est Serge Danet. Voilà.
Quelques mots là-dessus ?
De plus, c'est compliqué. Enfin voilà, ça pour moi c'est comme le cinéma, c'est-à-dire que c'est être en face de choses qui ne sont pas de vous et dont vous dites que vous pourriez les écrire et que c'est mieux dit que comment vous le diriez. Et donc on peut s'y reconnaître.
Le public avec lequel tu travailles, donc dans Trahir pour mémoire, on le retrouve aussi dans d'autres de tes films.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi de travailler dans ton cinéma avec ce public-là ? Quel sens ça
a ? Il y a quelque chose du domaine d'une certaine croyance dans le cinéma que j'ai envie de te poser comme question. Je ne sais pas si c'est le terme croyance, mais quelque chose d'une interrogation forte, mais qui n'est pas dans le cinéma au sens large.
C'est compliqué, parce que oui, on pourrait dire oui, évidemment. En tout cas... On pourrait dire qu'il y a quelque chose par là. Après, c'est pas une chose à manipuler, parce que n'importe quel clampin qui fait des films avec des pauvres qui payent mal va parler de croyance, quoi. Donc j'en sais rien, quoi.
Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais
non, mais c'est un bon mot, parce que justement, ouais. Il faut pas le laisser, comme ça traîner, quoi. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une salle de cinéma où il y a 3 personnes ou 100 personnes, je ne sais pas, c'est quelque chose vous regarde, c'est très précis, ça active en vous des choses très complexes, et soit vous décidez d'en faire, soit vous décidez de penser à partir, c'est, voilà, et mais il se passe, voilà, et que ça c'est un acte qui n'est pas tout à fait un geste d'art, c'est pas le problème, c'est un geste, c'est ce qu'on appelle un lieu commun dans ce qu'il a de plus... plus compliqué, quoi.
Je sais pas, Bruno, ou question crue, quoi, c'est ça me donne envie, ou des fois je me la pose de façon crue ou naïve, ou je sais pas, mais qu'est-ce que peut le cinéma et le monde, quoi. Il y a tout ça qui... je dirais comme ça. Est-ce que ça permet de dire des choses à partir de là, ou est-ce que non?
Bah, hier, pour faire comme toi, hier, tu parlais tout à l'heure des projections à Dada hier, où on a montré le dernier film qu'Olivier a fait avec Isabelle, donc qui est une des actrices de D'ailleurs pour mémoire dont on parlait tout à l'heure.
Et que tu as monté.
Et dont j'ai participé au montage, j'ai monté avec Sébastien. Et dedans, à un moment, Olivier demande à Isabelle, est-ce que le cinéma, ça t'aide? Et là, dans le public, quelqu'un le demandait, enfin, l'avait pris comme une phrase qui parlerait, disons, d'un caractère thérapeutique du cinéma. Est-ce que ça pourrait aider, etc. Enfin, dans la croyance dont tu parlais, je pense que oui. Enfin, Olivier, il l'a. Moi, je pourrais l'avoir aussi. Et c'était un peu au centre de la commission Maurice Barnett à la CIP. C'était effectivement de se poser la question de ce que peut le cinéma, que c'est pas qu'un plaisir esthétique. Est-ce que le cinéma, ça peut aider à vivre, aider à penser, etc. Et moi, il me semble, pour répondre à une question d'il y a au moins 30 minutes sur ce qu'on a appris dans Boris Barnett, ou plutôt on a vérifié un certain nombre de croyances, à savoir, là en l'occurrence, on utilisait le cinéma à l'intérieur d'un collectif pour essayer de se voir, de se penser, etc. Et moi, je dirais que là-dessus, on a assez réussi. Qu'effectivement, oui. Moi, j'ai pu vérifier que, oui, le cinéma, ça peut aider à penser, y compris à plusieurs, y compris... Alors, je ne sais pas si c'est une réponse.
Mais... Si, ça me donne une réponse. Puis tu as envie d'aller plus loin dans cette réponse. C'est le mur, ou est-ce que ce n'est pas un mur, ou le fossé, ou je ne sais pas, le cinéma et la classe, qui pour moi, ça gravite aussi dans cette question. Ou ça, c'est comme un serpent qui se peut se mordre la queue.
La classe, qu'est-ce que tu entends par là?
La classe sociale.
D'accord. Bah, c'est-à-dire que... Moi, je pense que... Enfin, par rapport à ça, je suis pas sûr d'être au clair. Par contre, ce que je sais, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous être dans cette perspective-là, même si c'est une perspective qui est cubiste, c'est-à-dire avec beaucoup d'endroits où c'est bouché et avec des murs, effectivement. C'est qu'il y a un ensemble de choses qui va devoir ou qui est en train de se redéterminer. Et du point de vue de la fabrication, et du point de vue de la relation dans le fait de montrer, parce qu'il y a énormément de choses qui sont fabriquées, qui sont des choses aussi faites dans une forme de pauvreté, que ces choses-là sont importantes, qu'il faut tisser des choses pour les montrer, les regarder, que parfois ça perce ailleurs. Je pense au dernier film de Nicolas Rey qui vient d'obtenir le grand prix du Festival du Réel, contre toute attente, alors que c'est un artisan qui travaille de façon extrêmement tenace à fabriquer son cinéma, mais de A jusqu'à Z. Donc ça, c'est des signes qui nous sont envoyés, qu'on peut interpréter ou pas, hein, mais qui existent réellement, à savoir, je pense que les cartes sont en train de se redistribuer. Je pense que ce que disait Jean-François Desplazes dernièrement, quand je l'ai croisé, on boit plus un verre ensemble, c'est que... Et ça, c'est une vraie question, par exemple. Je ne sais pas quoi en faire. Au moment où il nous confie que peut-être que le cinéma, pour la première fois de son histoire, peut décrocher de l'industrie. Ça, par exemple, c'est une vraie question auquel je n'ai pas réponse et qui n'est pas simple non plus à poser comme ça. Parce qu'il y a toujours de l'industrie, il y en aura toujours, ne serait-ce que par les outils qu'on emploie, mais peut-être se décrocher d'un certain nombre de dictats qui sont à ton plein d'endroits, hein, aussi dans la logique de comment on demande de l'argent, la logique scénaristique et tout ça, et qu'il y a peut-être un moment là où il y a des choses à saisir, à fabriquer, à rencontrer, à échanger, et que ça, c'est une affaire politique. Parce que je pense que ces lieux-là, ces lieux de discussion-là, c'est, à mon avis, on peut les... pas les transposer, mais les voir aussi dans les collectifs plus politiques, on va dire plus militants. Je pense que ces clivages et ces problèmes se posent aussi, quoi. Mais après, autrement, c'est-à-dire sur la question des énoncés, par exemple, et que là-dessus, il y a un certain nombre de bagages idéologiques qu'on n'a pas, et dont certains qu'on a, qu'il faut faire tomber, quoi. En tout cas, qu'il faut questionner de façon franche, sérieuse, quoi. Ça, pour moi... Et après, on ira pas, on verra ce que...
T'es venu d'ailleurs à Marseille aussi un peu pour ça, puisqu'il y a des discussions... Enfin, pour ça, en tous les cas, par ailleurs.
Parler de tout ça, oui, bien voilà, sûr. Oui, donc, d'ailleurs,
je sais que tu participes à une discussion donc, qui aura lieu...
Demain, mardi, à... Ah bah oui, avec Jean-François... Ah oui, bah oui, bien samedi...
Samedi après-midi, à 15h, quand tu dis la Cité Maison de Théâtre, hein, autour de justement de ces pratiques-là, pratiques d'atelier, pratiques...
Aussi, ouais.
quand tu parles des idéologies qu'il faudrait faire tomber, tu penses à des choses ?
C'est pas aussi simple que ça, ni aussi massif, on va dire, mais c'est que
l'idéologie de la technique.
On a tous des, non, mais on a tous des réflexes qui sont des réflexes qui sont d'avant, qu'on porte, qui sont des choses qui sont même inconnues à nous-mêmes dans, des, dans nos rapports à la parole, nos paroles au monde, dans nos rapports aux politiques et tout ça. Il y a des héritages réels, qu'on le veuille ou non, et que ces trucs-là, c'est des choses à questionner dans la pratique et dans les rencontres. Quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que parfois, les réponses idéologiques qui semblaient adéquates il y a encore 10 ans, juste, elles sont rigoureusement impossibles par rapport au réel, à ce qui vient, à ce qui arrive. La massification de la pauvreté, on va parler de la dette, enfin, tu vois... Ce système, il enfin, tout, y a et pour le coup, on est un peu obligé d'être plusieurs à y penser parce que c'est vraiment trop grand pour nous, quoi.
Alors pour ça, il y a des, vous allez vous appuyer comme sur des choses communes, peut-être. En tous les cas, on connaît ton attachement à Fernand Deligny, par exemple, qu'on retrouve aussi oui. dans la pratique de ton cinéma, sans rentrer dans quelque chose qui serait trop long, bien entendu, sans ce que la pensée deligny, etc., et tout ce qu'il a écrit. Mais
c'est un serpent. Hein.
C'est un serpent, comme tu dis. Donc, en quoi ça rend commun cette réflexion autour du cinéma d'industrie, du cinéma, on va dire, qui se pratique de manière... Plus marginal, mais...
Bah Deligny, c'est un... Je sais pas si c'est un cas, mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant, parce que s'ils ont œuvré dans une grande pauvreté, ils ont aussi reçu de l'argent de l'industrie, quoi. Tu vois, le fric que leur donne les Pink Floyd à un moment donné, enfin tout ça, c'est-à-dire que Truffaut. Les caméras qu'on leur donne, Truffaut qui aide. Ouais. Donc il y a des compagnonnages possibles à un moment donné. La question de ces compagnonnages, aujourd'hui, je sais pas où elle est, par exemple. Ça, par exemple, c'est important. C'est-à-dire que être dans le précaire à un moment donné et toucher un peu de subsides, on va dire, d'espaces qui sont plus argentés et plus dans l'industrie, je pense que c'est ça qui est en train de tomber. Ça, c'est vraiment en train de tomber. C'est-à-dire que, en gros, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que ce qui a été possible au temps de Deligny, par exemple, qui était à la fois de trouver des lieux de soins qui soient adéquats, à la fois politiquement, du point de vue de la vie. À des problèmes aussi graves et compliqués que l'autisme et compagnie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'une part, c'est beaucoup plus coincé. La question du soin, c'est une catastrophe. Enfin, tout, il y a des... Voilà. Et donc forcément, le cinéma, ça va avec. Hein. Je ne vois pas en quoi ça serait une extériorité par rapport à ce monde-là.
C'est là où c'est... Par exemple, la possibilité de sortir de l'industrie, c'est là où ça semble compliqué de le prendre qu'avec joie ou quelque chose comme ça. Quoi.
Oui.
De la même manière que Deligny, la moitié de son travail, ça a été quand même à l'intérieur des institutions, qu'on pourrait appeler industrie du soin, ou etc., où il a réussi de fait à porter des choses vraiment majeures, en général 3 ans, et au bout d'un moment, quand l'institution jetait un œil sur son travail et son succès, le transformait en des choses horribles, et il lançait une autre tentative. Il a passé les 30 dernières de sa vie dans quelque chose effectivement un peu en dehors, mais avec un certain nombre de soutiens institutionnels qui lui donnaient tout pouvoir. Et sans, effectivement, s'il n'avait pas été soutenu par des gens célèbres comme Guattari ou matériellement comme un mec de Pink Floyd qui avait été dans un asile et qui lui a donné l'argent pour acheter la maison dans laquelle ils sont restés 30 ans, il n'aurait pas réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, la possibilité de faire des choses à l'intérieur des institutions de soins, c'est de plus en plus mort. Enfin, il est quasiment impossible de faire ces choses-là à l'intérieur.
C'est très difficile.
Et de la même manière, j'ai l'impression que dans le cinéma, c'est ça aussi. À un moment, il semble de plus en plus difficile de porter des projets d'importance à l'intérieur de l'industrie. Et ce n'est pas que joyeux, quoi. Et là où c'est assez paradoxal, c'est... Enfin, moi, je relisais un mec qui s'appelle Stanley Cavell, un philosophe américain qui écrit sur le cinéma des choses un peu qui résonnent un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, un de ses livres s'appelle « Le cinéma nous rend-il meilleur ?» qui sont quand même des vraies questions. Et pour lui, le cinéma hollywoodien a notamment fabrique de l'éthique et a fabriqué la subjectivité contemporaine. Enfin, par exemple, la comédie de remariage américaine des années 30 a fabriqué, c'était juste après le mouvement des suffragettes, à un moment où le féminisme américain existe assez peu, et en même temps ce cinéma hollywoodien porte une nouvelle femme qui n'existe pas encore et qui va se développer. De la même manière, à l'intérieur d'Hollywood et des films Main Street, beaucoup de choses passaient, quoi. Et que moi, qui ai grandi dans une famille enfin pas riche, une famille de flics, donc je ne sais pas si c'est vraiment proche, mais en tout cas, bon, voilà, gaulliste, etc. La politique qui est rentrée chez moi, c'est par la télé, c'est par Ford, c'est par Godard, ou c'est même par des mecs comme Carpenter, quoi. Enfin, c'est-à-dire où le peuple était encore le sujet dans le cinéma industriel, qui est quelque chose qui quand même est en train de changer. Et ça, je ne sais pas si c'est joyeux, cette possibilité-là d'avoir des énoncés, enfin des vraies subjectivités politiques qui atteignent des gens qui ne vont pas les rencontrer à l'intérieur de l'institution scolaire ou à l'intérieur des lieux où ils sont assignés. C'était quand même majeur, quoi. Et c'est difficile de se réjouir. Moi, j'ai toujours peur la fabrique d'un ghetto où il y aurait un cinéma d'importance, enfin, ce qui existe aujourd'hui, à savoir les festivals. La plupart des films qu'on arrive à faire, on peut aujourd'hui faire un film qu'on tient entièrement tout seul ou à plusieurs, avec des amis, avec des camarades en qui on a confiance, etc. Et après, il y a la question de la diffusion. S'il s'agit de démontrer qu'à des pairs, pour moi, c'est une vraie défaite.
Il y a un blocage, il y a un blocage, et là, on bloque beaucoup avec ça, quoi.
Et c'est vrai que l'émission s'appelle Enquête d'un cinéma indépendant. Et bon, si sortir de l'industrie, c'est être indépendant, mais il y a un lien entre le film et le spectateur qui est quand même important. Et c'est vrai que
à construire,
qui est à construire, que la télé aujourd'hui, enfin, voilà, elle pour le spectateur, elle construit des rapports qui sont quand même très compliqués après de l'emmener ailleurs.
Oui. Pas demander à un gamin de 12 ans de rester pendant une heure devant un film où il y a, mettons, 25 plans, alors que le séquençage, il est extrêmement... Enfin, c'est à ça rejoint ce que disait brillamment tout à l'heure l'extrait entre Strobeuil et quoi. C'est-à-dire que l'éparpillement, l'émiettement fabriquent une certaine subjectivité, on va dire, qui fait que se concentrer sur un objet donné avec une espèce d'assaise et de foi, effectivement, dans la possibilité de cet accouchement-là, on va dire, pour parler un peu... Ça exige quelque chose, de l'intensité, de la tension, mais pas de l'intensité au sens... une forme de tension dans le cadre qu'il faut construire, et que ça exige que ça pendant un temps donné. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'émiettement génère qu'on est ici et ailleurs en même temps, alors qu'il faudrait pouvoir être ici, puis ailleurs. Mais que les deux en même temps, ça devient... Enfin, ça génère ce film magistral de Godard sur la question palestinienne, quoi, aussi, par extension. Ouais.
Yeah. Mais ça, c'est des choses aussi qui je pense, qui peuvent être interrogées dans ces questions de faire des films d'atelier, et que aussi toutes ces questions que vous avez pu vous poser en faisant ce film, Nager comme si c'était hier, quoi. Ou ce que tu me disais hier, que toute la question était de voilà, quoi, que vous travaillez avec Isabelle, que Isabelle tournait des longs plans avec de la durée, et comment on se positionne à ce moment-là pour couper, quoi. Pour couper
Isabelle
le plan,
c'est
comme Deligny.
Deligny,
pour moi, en faisant ces expériences-là dans ces centres, justement, il répond à la question où lui, il prend le parti d'éviter de se poser la question de couper, quoi.
Mais tout à fait. Mais après, c'est pour ça que c'est toujours important, à mon avis, et même par rapport à les questions politiques. Si on retourne sur les choses, c'est toujours de se dire comment c'était possible et comment ça a été fait. Deligny, il n'est jamais sur le tournage du moindre geste. Il balance quelques idées. C'est José Manenti qui s'en occupe avec Yves ou Jean-Marie. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Yves.
Yves.
Et ils inventent des choses. Et puis ils reviennent et ils racontent ce qui se passe. Et Deligny, ils enregistrent ensemble les paroles. Et puis après, ce film tombe dans l'oubli. Il échoue chez Descaches. Jean-Pierre Danet le raconterait mieux que moi.
Il l'a fait ici d'ailleurs.
Il est en émission janvier.
D'accord. Donc il y a 30 ans. On va dire au bas mot. Nous, on n'est pas sur cette problématique-là. Ça prend 3 ans, 4 ans. Donc, si tu veux, l'objet qu'on voit et l'intensité, le réalisme présenté, et c'est-à-dire forcément qui conduit à une chose qui est absolument renversante, c'est quelque chose qui n'était pas parti du cinéma, mais qui était parti de problèmes, qui est comment je vais faire pour tirer d'affaire ce gamin. Qu'est-ce qu'on va inventer? Tiens. Oui. Il y a le cinéma, et il s'avère que ça croise le problème du gamin, puisque la question, c'est le voir, le repère, et voilà, c'est tout ça.
Mais vous, dans Nager comme si c'était hier, la question, elle se pose pas comme ça, mais elle a des racines qui sont...
Elle résonne. On peut dire que ça résonne, absolument.
Comment elle se résout? Même si elle résonne pas du même endroit, mais elle résonne.
Elle apparaît, à mon avis, dans le film tel qu'il est aujourd'hui. et elle doit se déplier après, a posteriori. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, hein, quand Deligny parle d'images sauvages comme les oies sauvages, qu'est-ce que tu retiens de ça, toi, dedans, quand tu fais un film? Est-ce que ça quelque chose qui est en toi, ou enfin c'est
présent, toi, c'est absolument présent, c'est les images, c'est quoi la réflexion, les images sont souvent comme les oies domestiques, gavées de signification. Voilà. Comment on se débarrasse, nous qui sommes des normopathes en puissance, du gavage de la signification, de la sursignification? Ça c'est une assaise. C'est en ça où la question de, aussi on peut dire ça, hein, c'est l'attention, le soin porté au réel, avec cette espèce d'outil qui est un outil mécanique, qui voit des choses que nous, on ne voit pas là-dessus. On répète bêtement ce qu'on dit, mais on le constate, on le voit.
Tu pensais qu'Isabelle, elle est sur un registre où elle est une noix comme nous, mais elle était moins gavée.
C'est un peu pour ça que je faisais le parallèle parce que dans les réflexions qu'il y avait à Dada, c'était un tout petit peu ça aussi. Tu sais, il y avait même quelque chose qui était de l'ordre du geste... immédiat, geste spontané.
Il est profondément habité par un désir inouï de ressembler à tout le monde, sauf que c'est pas possible. C'est tout. C'est-à-dire, ce qui lui est donné, imaginairement parlant, c'est ce qui ne lui est pas possible concrètement. Donc c'est ça la question. Ce qui n'est c'est pas vraiment le même problème que Yves, c'est-à-dire très simplement, on est tous confrontés à des choses qu'on veut et qu'on ne peut pas. Sauf que là, avec Isabelle, c'est en permanence des murs, mais qui sont des murs liés à pas simplement des questions imaginaires. Qu'est-ce que tu fais quand tu passes ta vie devant la télévision, mettons, pour n'importe qui, à voir les fantasmes sociaux qui sont déployés en permanence de façon réaliste, sachant que toi, on te le donne, sachant que ce qu'on te dit en même temps qu'on te le donne, c'est que tu vas en être privé. C'est ça. Alors après, comment on déploie ça? Comment on ouvre des portes ailleurs pour dire « Ouais, mais il n'y a pas que ça. » On te dit « Ouais, il n'y a pas que ça, mais quand même, j'en ai envie. » Parce que tout ça, ça agit sur des questions de ce qu'on appelle, de ce que Guattari appelait le désir, de ce que Deligny, je sais si Deligny n'aimait pas ce mot, un mot de touriste, et en même temps, c'est des choses auxquelles on a affaire. Quoi.
Moi, ce que tu dis, ça me fait penser à la question, parce que je trouve qu'on parle de cinéma et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a la question de la technique qui est fondamentale dans la question du cinéma. Quoi.
C'est elle qui veut
piloter. Et j'ai l'impression qu'avec les outils du numérique, on est obligé de se reposer la question. Ce que permettaient les outils du 16 mm et permettaient peut-être plus facilement l'argentique, ben là, avec le numérique, on se retrouve un peu piégé. Moi, ça me fait penser à pour moi, les ateliers que fait le Polygone Étoilé Film Flamme, de ce choix radical de faire une bobine tournée comme ça et de
monter du son. Oui, ce que tu appelles geste cinématographique.
Le geste cinématographique permet de déplacer un peu toutes ces questions là où gravite, quoi.
Et ça les déplace dans une contrainte extrêmement serrée, effectivement.
Mais comment on fait avec le numérique pour essayer de réussir aussi à être dans une contrainte extrêmement serrée, ou qu'est-ce qui permettrait...
C'est ton rapport au monde, à toi qui filme, en fait, qui est en jeu. Et c'est pas tellement l'outil, mais c'est que peut-être dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec Internet et compagnie, on est plus détaché de la croyance au monde. C'est Deleuze qui disait ça, il disait la croyance au monde, c'est ce qui nous manque le plus.
Mais le numérique, il accentue cette croyance au monde en synchronisant
tout. Non, ça je pense que c'est aussi une... faut se méfier de ça, parce que pas plus que quand la vidéo est apparue, mettons, pour parler effectivement avant le numérique, parce que ça a posé le même problème.
Mais ils ont été bannis, les gens de la vidéo des années 80-90, ils ont été...
Disons qu'à l'époque, le surmoi du cinéma était plutôt du côté de la pellicule, et la vidéo, c'était pour le cinéma militant ou pour des jeux.
Marginal, quoi.
Imaginairement parlant. Mais en même temps, regardons ce qui a existé, quoi.
Oui, oui.
Tu vois, les films de Carole Rousseau-Poulos, par exemple, faits avec ses premières vidéos.
Les expériences de Godard.
Le travail de Gatti à Montbéliard. Enfin, tu vois, il existe des traces. Le reste a été, massivement, effectivement. Et je pense que si on veut s'intéresser au cinéma aujourd'hui et à la vidéo en particulier, c'est plus intéressant de regarder ces expérimentations-là qui ont fabriqué du sens de façon massive, hein, et d'ailleurs qui ont influencé le cinéma industriel, faut pas déconner, quoi. Je veux dire, tout le cinéma, même chinois aujourd'hui, est beaucoup plus influencé par Bresson et aussi les expérimentations des 70 qui ont été vues, je sais pas comment, que par le par les films de Serge Corbet dans les années 70. Hein.
Ouais, ou les ateliers Varan des années 90.
Oui, non, mais voilà. Donc la question, c'est que les linéaments, ils sont où, où est-ce qu'on les tisse ? Et je pense que sur le cinéma numérique, qui est quand même le problème majeur du cinéma numérique, c'est aujourd'hui, c'est au-delà du fait qu'il faut se raciter la chaîne, qui est quand même une chose importante, ça, c'est un gros coup dans le cul, comme on dit, c'est, bon sang de bonsoir, la conservation. J'ai un beau jeu de parler de la conservation, mais c'est la conservation. C'est-à-dire qu'en gros, ça va changer tous les 3 ans, tout le temps, en permanence. Donc on va te dire, maintenant, tu vas travailler avec d'autres outils. Et juste ce que tu as dans les mains, eh ben ça risque en permanence de disparaître. Or, le cinéma, c'est un moule, avant. Hein. Mais la vidéo aussi, on peut filmer avec une caméra, ce qu'on a fait, on peut le refilmer, le re-shooter avec une caméra 16 ou 35. C'est un moule. Et ce moule, c'est... Tarkovsky, quand il dit c'est du temps scellé, il ne le dit pas pour rien, pour n'importe qui. C'est du temps scellé, quoi. C'est-à-dire c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui va se redéployer devant nous. Avec le numérique, c'est pas tous ces cons à Hollywood, ils font des sorties négatives 35 pour garder leurs outils, leurs films, quoi. Donc ça veut dire que le problème, il se pose de façon plus cruciale, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça va trop vite. Enfin, toi, c'est n'importe quoi. Toutes les salles.
Après, faudrait peut-être aussi des fois. Faudrait peut-être. Il y a des problématiques différentes. Enfin.
Oui.
C'est des problèmes de la conservation, c'est. Le problème culturel, finalement, ouais. Parce que c'est le
problème
culturel,
tri,
ou anthropologique. Enfin, qu'est-ce qui va rester de la culture humaine à une époque donnée ?
Qu'est-ce qu'on garde ?
C'est là où ça se pose. Après, sur les outils, par exemple, Isabelle, le numérique, c'est ce qui lui a permis de filmer toute seule, c'est-à-dire cette sensibilité.
Oui, voilà.
Godard dit, c'est Sony qui filme. Et il a entièrement raison, et il y a une dépossession par rapport à la possibilité mécanique de contrôler son outil, savoir comment il marche, etc. Enfin,
même temps, maintenant, il y a des hacks sur les outils numériques où on peut...
Et pour moi, moi, je ne suis pas comme Nicolas Rey, j'admire beaucoup comment il est capable d'avoir ce rapport autonome à la technique, un rapport amical avec les machines. Pour moi, les deux me terrorisent tout autant, les machines sont mes ennemis, je suis dans un rapport très conflictuel, je ne comprends rien, ça m'énerve tout de suite. Et autant une numérique qu'une caméra 16. Quoi. Mais dans le cas d'Isabelle, par exemple, c'est grâce à la simplicité de Sony qui filme un peu à sa place et machin qu'elle a réussi réellement à faire des images. Quoi.
Oui.
Et à les faire, faire toute seule. Enfin, sur le truc de Denis, ce que ça nous apprend quand même, juste, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est une image.
Oui.
Et que ce n'est pas en écrivant un projet qu'on est sûr de créer une image. Ouais. Ce n'est pas en l'imaginant qu'on va la créer et que souvent on est surpris. Quoi. Enfin, c'est un peu le
voilà.
Il me semble que Nager, c'est un film, mais pourtant il n'est pas à l'endroit que vous aviez prévu, ni toi ni elle, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et que là, c'est quand même.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas ce que c'est qu'une image et que voilà, on ne sait pas ce que c'est et que si c'est pas une continuité dialoguée, ça c'est sûr. Mais dans la continuité dialoguée, il peut y avoir une image à un moment donné.
Ouais,
évidemment. Sauf que si on demande à tous de faire des continuités dialoguées ou des synopsis et compagnie, juste ce qui va apparaître, c'est pas possible, quoi. Donc il faut se battre pour que les choses puissent s'ouvrir, quoi. S'ouvrir. Quoi.
Et le Nager comme si c'était hier, donc c'est pour toi, j'imagine, une expérience intéressante aussi sur la construction d'un film à deux.
Oui.
Ce qui est étonnant dans le film, c'est ma sensation de ressentir que tu essayes de donner une direction quand même au film qui par ailleurs t'échappe, j'ai l'impression, sur la manière dont... Et c'est normal, puisque ça se construit dans cette fragilité de relation qui est elle-même fragile et compliquée. Mmh. Et c'est sans doute là qu'est l'intérêt le plus important du film, je trouve, enfin, dans quelque chose qui échappe quand même et qui est bien là dans beaucoup de moments du film.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, il y a quelque chose dans ce qu'on pourrait appeler cette relation, et avec le cinéma combiné, et avec Isabelle, c'est-à-dire cette espèce de trois choses en même temps, il y a quelque chose qui est plus, et qui est une douleur réelle que de ce qui échappe, c'est quelque chose qui ne se saisit pas, aujourd'hui encore.
Et comment ça replace la question de la croyance quand on dit que ça se saisit pas.
Bah, je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Il a fallu le faire. Il a fallu pour le coup aussi. Enfin, il a fallu vouloir le. Voilà, il a fallu avoir un peu de volonté pour y aller. Voilà. Donc forcément, enfin, tu vois, parce qu'a priori, on n'est pas obligé de s'emmerder, quoi.
Non, non.
Mais
non.
Que là, et que c'est pas. Et la question du plaisir et tout, c'est de dire, on va aller quelque part, un peu. Et donc là, le soin et tout ça, quoi.
Olivier, on va être obligé de terminer cette émission. En tous les cas, on était super content d'être avec vous ce soir. Je pense que c'était assez passionnant. De toute façon, l'émission va se prolonger, bien sûr, avec les projections de cette semaine. Hein. Vous pouvez aller retrouver donc les informations sur les programmes à venir. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose sur le site de Dérive ou en tous les cas, voilà. À la fois Polygone étoilé cette semaine, donc demain soir, je le répète, avec plusieurs de ses films, samedi aussi à la Cité Maison de Théâtre. En ce qui nous concerne, nous, à Enquête d'un cinéma indépendant, on va se retrouver au mois de mai. Le 7 mai, je vous encourage à nous écouter la prochaine fois aussi. On aura plusieurs invités passionnants, puisqu'on va interroger la question du Centre Fontblanche, le Centre Alio, qui a été un centre de création cinématographique important dans la région PACA, qui se trouve à Vitrolles d'ailleurs, et qui sera suivi de pas mal de projections au mois de juin au Polygone étoilé. C'est là cet endroit-là qu'on a choisi pour projeter les films. Voilà.
On fera une pause en été, en juillet, août.
On fera une pause en été, en juillet.
Quand même, faut bronzer un peu.
Lolo, t'as été bien la technique ce soir, je trouve.
Merci Bruno. Ouais, merci, ça passe vite, hein, mais bon.
Ouais, c'est incroyable.
Et puis voilà, on se voit mardi, samedi, et puis plein d'autres fois. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.
Dans mes bras, viens m'embrasser. Dans mes bras, et nous irons, et viens ma belle Andalouse, viens que je t'épouse, et sois ma belle, la belle au bois dormant,
c'est bon. Au revoir.
Et viens ma belle, viens, dans mes bras, viens m'embrasser, dans mes bras, ah sois la belle, que je réclame au sourire moqueur, et viens dans mes bras, viens m'embrasser, ah ma belle, sois le charme et la beauté que j'aime, ah viens dans mes bras, ma belle, viens m'embrasser, et sois ma belle, et la grandeur au sourire moqueur. Radio Galère, 88.4.